Victor Jesus Christus.
À quelques jours des célébrations de la Passion et de la Résurrection du Christ, le pape exprime aujourd'hui sa proximité avec les catholiques de Jérusalem, de Palestine et d'Israël. « Vous n'êtes pas seuls », leur écrit François, on y revient dès le début de ce journal. 170 Français et 70 Européens ont été évacués d'Haïti par l'armée française. Quant aux Haïtiens, ils sont nombreux aussi à vouloir fuir pour gagner la République dominicaine, mais ils n'y sont pas les bienvenus. À Cuba, la lente dégradation de la situation économique a provoqué des coupures de courant et des manifestations il y a 10 jours à Santiago. À qui la faute ? Décryptage dans un instant. Et puis enfin, nous irons au Japon où la monnaie locale, le yen, a atteint son niveau le plus bas depuis 1990, attisant le risque d'une intervention de l'exécutif japonais.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Le pape François, proche des 200 000 catholiques de Terre Sainte, à quelques jours de Pâques, le souverain pontife écrit en effet une lettre aux communautés de la région marquées par la guerre. Une lettre pour manifester son soutien à ses fidèles et rappeler l'espoir que la paix revienne sur cette terre où le Christ a vécu sa passion et sa résurrection. Olivier Bonnel.
Depuis un certain temps, je pense à vous et je prie chaque jour pour vous, commence le pape. Mais maintenant, à la veille de cette Pâque, j'éprouve le besoin de vous écrire pour vous dire que je vous porte dans mon cœur. François confie être proche de tous ces catholiques de Terre Sainte, quel que soit leur rite. La Pâque, rappelle-t-il, est d'autant plus significative dans les lieux où vécut le Christ. Non seulement l'histoire, mais aussi la géographie du salut n'existerait pas sans la terre que vous habitez depuis des siècles, où vous souhaitez demeurer et où il est bon que vous demeuriez, écrit-il encore. Par cette lettre, François espère aussi que ces catholiques puissent ressentir son affection de père, mais aussi celle de tous les catholiques du monde. Le pape fait encore mémoire de son voyage en Terre Sainte il y a 10 ans sur les pas de son prédécesseur Paul VI. « Vous n'êtes pas seul et nous ne vous laisserons pas seul », lance encore le souverain pontife à l'adresse de ses catholiques. François qui remercie aussi les pasteurs de ces églises de Terre Sainte pour leur travail. « Que l'or de l'unité croisse et brille dans le creuset de la souffrance », conclut-il, également avec les frères et les sœurs des autres confessions chrétiennes, auxquelles je désire aussi manifester ma proximité spirituelle et exprimer mon encouragement.
Olivier Bonnel. Et puis ce matin, le pape a salué l'amitié de deux hommes, l'un israélien, l'autre arabe, deux pères endeuillés, qui ont décidé de ne pas céder à la violence, à la mort de leur fille, l'une dans un attentat suicide du Hamas, l'autre tué par des tirs israéliens devant son école. Ces deux frères témoignent de la nécessité de respecter l'autre, et le reste suivra. Leur témoignage est à retrouver sur vaticannews.va. À Gaza, près de 32 500 Palestiniens auraient perdu la vie, près d'une centaine ces dernières heures dans des bombardements sur Rafah et dans le nord de l'enclave. Trois hôpitaux sont par ailleurs encerclés par l'armée israélienne. Al-Shifa, Al-Nasser, Al-Amal sont accusés par Israël d'abriter des bases du Hamas. Et puis enfin, en nord d'Israël, les échanges de tirs entre Tsahal et le Hezbollah libanais ont fait 8 morts ces dernières heures, dont 7 secouristes au Liban. Sur les 338 personnes tuées au Liban depuis octobre, 57 étaient des civils. Des hélicoptères de l'armée française se sont posés aujourd'hui à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, encore contrôlée à 80% par les gangs. Ils ont fait évacuer 170 des 1100 Français ou binationaux qui se trouvent sur place et aussi 70 Européens les plus vulnérables. Actuellement à bord d'un navire de la marine française, ils font route vers la Martinique. Il y a ceux qui fuient par voie aérienne et ceux qui empruntent la voie terrestre, car des Haïtiens tentent eux aussi de fuir. Et pour eux, une seule solution, rejoindre la République dominicaine où ils ne sont pas les bienvenus. C'est ce que nous confirme sœur Maria Eugenia Vasquez, une missionnaire scalabrienne argentine qui travaille sur place auprès des migrants.
Nous savons que l'accès aux frontières est très restreint. Le gouvernement ne permet pas aux migrants haïtiens d'entrer. Il n'y a pas de visa haïtien. Les visas haïtiens ne sont pas accordés. Même les consulats dominicains en Haïti sont fermés. Donc les gens qui arrivent viennent de manière irrégulière. Et c'est pourquoi il est très difficile d'avoir des données précises et de dire si leur nombre augmente ou non. Nous travaillons dans la ville de Los Reyes, sur la côte nord-est. Et ce que nous constatons dans la région où nous nous trouvons, c'est qu'une population haïtienne arrive dans les zones rurales. Mais certains d'entre eux sont des migrants qui se trouvaient déjà en République dominicaine et qui, en raison de la question des déportations et d'autres situations, se déplacent vers les zones rurales pour une plus grande sécurité, parce qu'ils risquent d'être expulsés, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, etc.
etc.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. En guerre contre les gangs, il veut faire du Salvador le pays le plus sûr au monde. Mais avec quelle contrepartie? L'ONG Amnesty International s'inquiète des violations des droits humains perpétrées sous le mandat de Nayib Bukele, réélu en février dernier avec 85% des suffrages. Les ONG locales auraient comptabilisé 327 cas de disparition forcée, une suroccupation carcérale d'environ 148%. 235 des 78 000 détenus au moins sont morts en prison. Une bombe à retardement selon les ONG. Cuba, une crise sous silence ou presque. Il y a quelques jours, une dizaine de jours, des centaines de Cubains ont protesté dans la deuxième ville du pays, à Santiago, contre des coupures de courant régulières. C'était la plus grande manifestation depuis 2021 dans le pays. Le président Miguel Díaz a aussitôt accusé les États-Unis d'ingérence. Scani Washington. Blandine Destremo revient sur les causes de ce pic de colère. La sociologue est l'auteur du livre « Vieillir sous la révolution cubaine ».
Cuba produit très peu de choses, très peu d'aliments, très peu de besoins de produits manufacturés. Et en fait, année après année, il y a eu le Covid certainement, il y a des mesures d'embargo des États-Unis qui sont très importantes, mais année après année, Cuba s'enfonce dans la crise en fait avec un déséquilibre croissant entre les besoins de la population et ce que le pays est capable de produire. Et la réforme monétaire de 2021 a quelque part dévoilé le déséquilibre économique béant et la monnaie ne cesse de se dévaluer. Donc il y a un écart aussi croissant entre le taux officiel de la monnaie, le taux de la rue, comme disent les gens, de la main à la main. Et donc beaucoup de stratégies aussi de contournement, d'importation, etc., qui se mettent en place et qui creusent les inégalités. Donc en fait, c'est un processus continu, on peut dire depuis les années 90, mais même la crise des années 90 à la chute de l'Union soviétique ne faisait que révéler finalement des déséquilibres qui étaient déjà là et que Cuba parvenait un peu à contenir du fait de l'alliance avec l'Union soviétique.
Blandine Destremo, spécialiste de la société cubaine. En Ukraine, inspection des nouvelles lignes de défense dans le nord-ouest du pays a soumis par le président Zelensky. Ce dernier en appelle ce soir à nouveau aux Occidentaux, leur demandant des avions F-16 et des systèmes anti-être et aériens Patriot. Plusieurs frappes russes ont fait au moins 3 morts et 28 blessés aujourd'hui à Kharkiv notamment. Ce mercredi à Bruxelles, les 27 n'ont pas parlé de livraison d'armes, mais examiné un projet de plafonnement de certaines importations agricoles venant d'Ukraine. Une revendication des organisations agricoles et à la veille d'une rencontre bilatérale justement sur ce sujet, Varsovie évoque un rapprochement avec Kiev. L'Ukraine et les semi-conducteurs au cœur d'un sommet tendu. Aujourd'hui à Pékin, le président chinois Xi Jinping a reçu le Premier ministre Mark Rutte. Face aux Néerlandais, Xi Jinping a fait valoir que le peuple chinois a des droits légitimes au développement, qu'aucune force ne peut arrêter le rythme du progrès scientifique et technologique de la Chine. Plusieurs pays occidentaux ont décidé en effet de bloquer les exportations de technologies avancé dans les semi-conducteurs vers la Chine par crainte de leur utilisation à des fins militaires. Un sentiment d'urgence au Japon, le yen a atteint son niveau le plus bas en 34 ans face au dollar. Le pays vert a frôlé les 152 yens du jamais vu depuis 1990. À Tokyo, Philippe Mesmer.
Le dollar s'est changé autour de 110 yens en 2021, mais la différence des taux d'intérêt s'est accentuée entre le Japon et les États-Unis en raison de la lutte contre l'inflation. Le yen a alors commencé à perdre de sa valeur. Pour les analystes, si la tendance se poursuivait et si le dollar se rapprochait des 155 yens, le gouvernement pourrait intervenir comme il l'a fait à l'automne 2022. La Banque du Japon pourrait augmenter d'un quart de point son taux directeur. La question est un vrai dilemme pour le Japon. Un yen faible signifie des résultats meilleurs pour les entreprises ayant des activités à l'étranger, mais les importations coûtent cher, ce qui mécontente les Japonais déjà confrontés à une forte inflation que la récente promesse d'augmentation record de plus de 5% des salaires n'a pas rassuré. Une hausse des taux serait aussi un problème pour ceux qui ont un emprunt immobilier, car 70% des Japonais empruntent à taux variable. Cette hausse menacerait aussi une économie qui ne va pas très bien, techniquement en récession depuis la fin 2023. L'économie japonaise ne devrait pas connaître une croissance supérieure à 0,9% en 2024. Pas de quoi donner d'importantes marges de manœuvre au gouvernement. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
Une mission flash lancée en France par le Sénat après le dérapage du déficit public l'an dernier à 5,5% du PIB. Pourquoi cette dégradation? Quel suivi de la part de l'administration et du gouvernement? Les questions au cœur de l'enquête. Ce mercredi, l'agence de notation Moody's a par ailleurs jugé improbable que la France tienne son objectif de réduire le déficit public à 2,7% d'ici 2027. À Paris, on compte les jours avant les JO, mais aussi avant la réouverture de Notre-Dame de Paris. Dans 9 mois, l'établissement public publique qui a la charge de la reconstruction affirme être dans les temps et dans le budget. Et puis enfin en Afrique, le bras de fer commence entre l'opposition et le régime après le changement constitutionnel. Plus de détails sur Internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à toutes et à tous.